Mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle capsule express des critiques de Yugi. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique personnalisée. Je suis accompagné tout près de moi de Madame Tifa, que vous allez peut-être entendre ronronner de son plein volume. Si vous ne l'entendez pas, tant pis, elle vous dit quand même bonjour. Avant de passer à cette critique express de la semaine, vous êtes sur une plateforme numérique en train de nous écouter sur Spotify, sur Apple Pod, sur Google Pod, sur Balado, sur plein d'autres plateformes. Il y a un petit bouton quelque part qui s'appelle télécharger, un petit bouton qui s'appelle abonner, ou sinon un rating d'étoiles. Cliquez sur un de ces boutons-là, c'est super apprécié, vous nous aidez beaucoup à aller chercher de nouveaux auditeurs, donc on compte beaucoup sur vous pour le faire. Nous avons également une page Facebook, La Critique de Yugi, sur Facebook, hein, c'est ça. Donc, on vous demande très gentiment d'aller nous suivre sur notre page Facebook. Faites juste un abonné et surtout partagez la bonne nouvelle. On a besoin de vous pour aller se chercher encore plus d'auditeurs qu'on a présentement. On en veut plus. Et c'est grâce à vous qu'on réussit à le faire. Donc, merci de le faire si ce n'est pas fait. Merci de l'avoir fait si c'est déjà fait. Critique express cette semaine présentée par Bedu. Bedu vous parle de la saison 4 de Never Have I Ever sur Netflix, ainsi que du film Creed 3 disponible sur Prime Video. Donc là-dessus, je laisse la parole à Bedu. Bedu, dis-nous ce que tu penses de ces deux choses-là.
Merci Yugi de cette présentation. Alors oui, en effet, aujourd'hui, pour cette chronique express de la critique de Yugi, j'aborde avec vous deux trucs. On va essayer de faire ça vite. Donc, la critique du film Creed 3, ainsi que la critique de la saison 4 de la série Never Have I Ever, qui est disponible sur Netflix. Donc, on va commencer par la saison 4 de Never Have I Ever. Disponible, comme je le disais, sur Netflix, produite par Netflix. C'est une série de 10 épisodes d'environ 30 minutes. Ceux qui n'auraient jamais écouté les épisodes où j'en ai parlé, soit moi ou avec Maryse, je fais un bref résumé, puis je vais donner mes commentaires sur la saison 4. Il s'agit de l'histoire d'une jeune indo-américaine qui se prénomme Devi. Elle est à la fin du high school, donc la saison 1, elle arrive dans sa dernière année, pas sa dernière année, mais l'avant-dernière année, puis là, elle veut enfin être populaire, possiblement perdre sa virginité, puis tout ça. Fait que ça, c'est la prémisse de la saison. On va découvrir sa famille, son cercle d'amis, la série qui est basée beaucoup sur les valeurs familiales, où Devi est élevée par sa mère, puisque son père est décédé. On rencontre la cousine, la grand-mère, les amis principaux de Devi, tout ça, et ça évolue au fil de 3 saisons. On arrive à la saison 4. C'est l'année finale avant le college. Ils doivent faire les choix de leur où ils veulent aller, et puis c'est un peu ça autour duquel ça tourne, les choix d'école dans lesquels ils veulent aller sur le futur. En gros, c'est pas mal ça, l'histoire de la série. La série qui a été créée par Mindy Kaling, qu'on avait connue dans The Office, The Mindy Project, dis-je, Morning Show. Ensuite, puis au niveau des acteurs, là, c'est pas mal tous leur premier rôle, mis à part celui qui interprète le rôle de Paxton Hall-Yoshida, qui est comme le beau gars de l'école. Lui, on l'a revu un petit peu ailleurs. C'est ça. Dans le fond, là, ce que ça aborde là, cette année, c'est comme la conclusion de tout ça. Un peu comme j'avais mentionné avec Ted Lasso saison 3. On arrive comme à la conclusion du cycle, à la conclusion de l'histoire. Parce que la créatrice a justement dit fallait mettre une fin, fallait arriver au bout, parce qu'à un moment donné, des acteurs qui vont arriver à la fin vingtaine peuvent pas jouer des étudiants du secondaire toute leur vie. C'est un peu ce qu'on avait connu à l'époque, nous, avec Watatata. Je vais comparer ça un petit peu, mais je trouve que c'est beaucoup meilleur au niveau de l'écriture et de l'histoire, mais c'est un peu ça. On a fait le tour, on est rendu à une autre étape. On nous laisse planer que peut-être il pourrait y avoir d'autres choses par la suite. Peut-être un spin-off ou des trucs comme ça. C'est un peu le message qu'on nous envoie à la fin de la saison. Saison que j'ai dévorée, qu'on a écouté, Maryse et moi, les 10 épisodes en une fin de semaine. Comme je dis, c'est des épisodes de 25-30 minutes. Donc, cet été, là, ça fait relâche là, toutes les séries là, qu'on voit, là, Indéfendable, puis Stat, puis tout ça. Ben, vous cherchez quelque chose à écouter après le souper, une petite demi-heure. Commencez saison 1, vous allez vraiment aimer, c'est sûr. L'évolution des personnages, c'est une des critiques que j'avais nommées dans le passé où je trouvais que le personnage de Devi n'évoluait pas beaucoup à vie. Elle n'apprenait pas de ses erreurs. Là, on sent qu'il y a une évolution à la fin de la saison 4. Elle a maturé. On met vraiment la fin à tous les trucs, le suivi avec sa psychologue et tout ça. Fait que on sent qu'ils sont tous, pas juste Devi, mais les autres aussi, prêts à écrire un nouveau chapitre de leur vie. Ce que j'aime beaucoup dans l'ensemble de la série, encore peut-être plus dans la saison 4 justement, c'est la force qui les unit, autant le noyau familial que les amis. Il y a trois amis, les trois filles qu'on suit quand même tout le long, il y a une belle force, une belle relation. Ça c'est quand même intéressant, il y a beaucoup d'émotions. La transition, le départ vers l'école, etc. Bon, c'est peut-être plus venu me chercher parce que personnellement, ma fille se dirige vers le cégep à l'extérieur, donc c'est venu me chercher un peu. Je lui ai dit d'aller écouter l'épisode 10 de la saison 4 pour que le personnage qui joue la mère de Devi, elle met en mots ce que moi, des fois, je suis pas capable de faire. Donc c'est vraiment bien, j'ai vécu des belles émotions. Et une chose qu'on retient dans cette saison-là, c'est que les échecs, dans le fond, sont juste une étape dans la réussite. Dans le fond, ils vont vivre des échecs, ils sortent grandis de ça. Peut-être un petit peu plus que dans les autres. Je pense qu'on a vraiment bouclé la boucle, comme on dit. Et on a bien terminé ça. Si, grosso modo, c'est une série dont j'ai parlé souvent, que j'aime beaucoup. C'est pas seulement du teen drama, là. C'est vraiment grand public, c'est bien fait. Et les critiques sont récentes. Overall, en moyenne, dis-je en français, la série là, a obtenu un 7.9 sur 10 pour les 4 saisons sur IMDb. Et sur Rotten Tomatoes, là, on est à 95% pour les critiques, 86% pour l'audience. Donc, c'est d'excellentes notes pour une série de familial ado. Donc, c'est vraiment bien fait. Je le conseille fortement. Donc, comment l'été commence bientôt. Sortez Netflix et écoutez Never Have I Ever. Saison, moi, on parle de la saison 4, mais la saison en général. Vous allez pas du tout le regretter. Ma note pour moi pour la saison 4, je crois que selon moi c'est la meilleure. Je vais lui donner un 9 sur 10. C'est bien fait, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Donc avec tout ça en général, c'est un 9 sur 10 là, au total, surtout la saison 4. On passe ensuite à la deuxième partie de ma chronique pour aujourd'hui. On parle du film Creed 3. Qui est disponible sur Prime Video. Ceux qui n'ont jamais écouté les films Creed, c'est sûr qu'il va falloir écouter le 1 et le 2. Creed étant, là, si ça vous sonne un nom, c'est tiré de l'univers de Rocky. Donc Apollo Creed, qui était un boxeur là, dans la première mouture des films de Rocky. Il va décéder, et là on suit l'histoire de son fils, Adonis, qui ça tourne autour là, de lui pour les trois films. On est au troisième opus de la série, c'est-à-dire le neuvième film dans l'univers de Rocky. Par contre, cette fois, c'est le premier film dans lequel on ne voit pas Sylvester Stallone. Il agit quand même au niveau comme producteur, mais il y a eu un différent au niveau là, de la réalisation et des visées, donc il s'est retiré du projet. Ça met en vedette principalement Michael B. Jordan, qui joue le rôle d'Adonis Creed. Michael B. Jordan, qu'on avait connu, bien sûr, principalement dans ceux qui nous suivent dans l'univers Marvel et dans la série Wakanda, donc Black Panther faisait Killmonger. L'autre acteur qui joue dans le troisième, c'est Jonathan Majors, qu'on a aussi connu dans l'univers Marvel, qui joue Khan the Conqueror, qui est dans le Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et Tessa Thompson, qui interprète la femme de Adonis Creed, qu'on a aussi vu dans l'univers de Marvel, qui faisait Valkyrie dans l'univers là, de Thor. Un film réalisé par Michael B. Jordan lui-même. Il a été écrit par Ryan Coogler, qui avait travaillé, qui avait écrit et réalisé Black Panther et Black Panther Wakanda Forever, qui avait réalisé le premier Creed et qui avait travaillé à la production du deuxième Creed. Donc, quelqu'un qui connaît déjà bien l'univers. Et sur l'écriture aussi, on a un gars qui s'appelle Zach Bailyn, qui a été l'écrivain sur le film King Richard avec Will Smith, qui raconte l'histoire des sœurs Venus et Serena Williams. Et Will Smith a gagné un Oscar pour sa performance. Donc, c'est quelqu'un qui, au niveau de l'écriture, là, qui est quand même reconnu qu'il a eu un bon succès. Bon. L'histoire de Creed 3. L'histoire, c'est Adonis Creed a pris sa retraite. Il se retrouve en famille. Il y a une petite fille. On sait que dans le 2, là, sa femme est enceinte. Il y a la petite fille. Elle est sourd-muette parce que sa mère a un problème avec d'audition. Elle est partiellement sourde, etc. Ils vont mettre un petit peu l'accent là-dessus dans le film. Je vais en reparler plus tard. Donc, Adonis a pris sa retraite. Il est maintenant promoteur de boxe. Il va promouvoir un combat entre le champion de son écurie, qui est le gars qui a pris sa relève, qui s'appelle Felix. Et il va affronter Victor Drago, qui était le méchant, entre guillemets, dans le 2, qui était le fils d'Ivan Drago, qui était, dans le fond, bon, son recul à Rocky IV. Donc, il va avoir un combat entre Felix et Victor Drago. C'est ça qui est la première du film. Entre-temps, il y a un ancien ami d'Adonis qui sort de prison, qui est joué par Jonathan Majors, qui s'appelle Damien. Lui, il sort de prison. Avant d'arriver en prison, c'était un excellent boxeur, Golden Glove, etc. Là. Et là, lui, il dit, moi, je veux ma chance, j'étais le meilleur, je mérite de boxer, etc. Donc, Adonis va le prendre sous son aile un peu. Il va lui donner des petits rôles dans son gym de boxe. Il va arriver à des événements, puis il va se retrouver à faire un combat. Bon. Finalement, là, Adonis va devoir ressortir de sa retraite pour affronter Damien qui devient le méchant. Grosso modo, on fait le tour du film, de l'histoire. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé le principe de la nouvelle idée d'amener un adversaire. C'est bon, on avait pris dans le passé, justement, là, le fils de Drago, faire un lien avec le 4. Drago, le père qui avait tué le père d'Adonis. Là, on arrive avec quelqu'un comme de son passé, qui a boxé. C'est bien brodé, c'est correct, ça me va. La performance des acteurs est vraiment bonne. Michael B. Jordan est un excellent acteur. C'est une star, ce gars-là. Il a tout pour réussir. Le réalisme des combats de boxe, honnêtement, là, c'est vraiment... J'ai mal un petit peu quand je les regarde boxer. C'est bien fait. Les gars sont en shape. C'est impressionnant de voir ces deux gars-là, autant Jonathan Majors que Michael B. Jordan, boxer. C'est vraiment, vraiment bien. La musique aussi, c'est bien, assez bien amené. On est vraiment dans un univers connu, là, lors des entraînements, des combats, tout ça. La musique, c'est super bien faite. On met plus l'accent au niveau du hip-hop, etc. Ça, c'est super bien. Et j'ai beaucoup, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais le côté humain qui ajoute un petit twist à la surdité là, de la petite Amara, leur fille. Bon, le langage des signes, le côté avec sa mère, Adonis, là, qui est proche de la famille, puis tout ça, c'est bien, ça rajoute un petit côté sentimental humain qui nous fait comme vivre là, des beaux moments au travers des moments qui sont un petit peu moins faciles avec la boxe puis la remise en question tout ça. Par contre, d'un autre côté, j'ai des trucs que j'ai bien sûr moins bien aimé. L'histoire que je trouve qui est un peu poussée par les cheveux. L'idée est bonne d'amener un adversaire du passé d'Adonis, mais qu'on lui donne un combat de championnat. Clairement, le poids, ça marche pas, là, parce que dans la boxe, c'est beaucoup par poids, là, et la grosseur, ça fit pas. C'est comme, ouais, mais dans la vraie vie, entre guillemets, là, ça serait peu crédible. C'est sûr que c'est beaucoup de ces choses-là qui sont peu crédibles. Mais ça m'a comme un peu dérangé là, que lui arrive de nulle part et qu'il devient vraiment un super boxeur. C'est comme, ouais, ben oui, mais non. La prévisibilité, il n'y en a pas. On sait à quoi s'attendre. Là. C'est quand même le 9e film de la série Rocky. Donc, on sait que le gentil va gagner. Je ne veux pas rien divulgâcher, mais on sait très bien qui va gagner à la fin. Ensuite de ça, ce que j'ai un petit peu moins bien aimé, c'est le côté renfermé du personnage d'Adonis Creed. Au cours des trois films, à un moment donné, il est tout à fâché, il veut pas parler de son passé, les chicanes avec sa blonde. Après trois fois, là, à un moment donné, là, je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré. Là, j'ai fait comme... Mais je trouve qu'il aurait pu amener d'autres embûches dans sa vie personnelle autres que... La chicane sur son passé puis sur sa non-émotivité par rapport à bien des affaires. Ça m'a un peu dérangé. Là. J'ai dit, bon, je pense que je trouve qu'il manquait d'originalité pour ça. Au niveau des notes, je suis allé voir l'historique des films. Donc, le 1 avait eu quand même un 7.6 sur 10 sur IMDb, 95 et 89 sur Rotten Tomatoes. Puis là, on voit au 2, 7.1. 83-80, c'est celui qui a été le moins aimé de la série. Et le 3 est à 6.9 sur IMDb. Et 88-96 au niveau de l'audience, mais moins de critiques. Fait que là, peut-être ça a peut-être un impact à long terme, on va peut-être se stabiliser un petit peu. Donc on voit sur IMDb que plus la franchise avance, plus les notes baissent. Au niveau de Rotten Tomatoes aussi, ça baisse encore un peu. Je pense qu'on est rendu au bout de l'histoire. Il ne reste plus beaucoup de jus dans le citron. Je pense que c'est sûr que, d'un point de vue box-office, ça reste payant. Mais on commence à s'essouffler. Je pense que c'est toujours meilleur que la série Fast and Furious, qui l'a rendu à 10 films plus les spin-offs. Là, ça, il n'y a plus rien et c'est non crédible. Ça reste que la série Creed est un bon divertissement. Les combats de boxe sont intéressants. On est quand même en haleine. On a mal pour eux. On sait qui va gagner. Mais ça reste qu'on est comme, ah, il y a ouf, ah, ça a l'air vraiment mal. Puis on se demande un peu comment ça va aller puis comment ça va se replacer. Moi, de mon côté, je vais lui donner un 7.5 sur 10. C'était bien, mais il y a quand même des petits bouts qui m'ont fait comme « Ah, ouais, ouais. » Je l'ai écouté une fois, je ne pense pas le réécouter. Je pense pas qu'il y a assez de substance et de profondeur dans ce film-là pour le réécouter. Dire « Ah, y a-tu des bouts que j'ai manqués? » On va au début, on va jusqu'à la fin là, sans vraiment là, aller nécessairement plus loin. Je l'ai pas mentionné, là, mais le film dure 2 heures. Donc, ça passe bien. On s'ennuie pas, c'est juste assez. Mais c'est correct, je pense qu'on a fait le tour de la franchise Creed et ou Rocky. Je pense que c'est assez. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette critique de Yugi Express. Et on se revoit bientôt, soit pour une autre express ou pour la critique du mois de juillet à venir. Merci beaucoup, passez une belle journée.
Eh bien, merci beaucoup, Bedu, pour cette critique de la saison 4 de Never Have I Ever sur Netflix, saison 4 que j'ai moi-même commencé. J'écoute la série, j'aime également beaucoup la série et je suis content de savoir que je vais continuer d'aimer cette série qui se termine avec la saison 4 malheureusement. Et pour la critique du film Creed 3 qui semblait quand même particulièrement très bon, mais que on dirait que je suis comme moins sûr de l'écouter. Je vais bien évidemment commencer par écouter par les deux premiers films parce que je les ai pas vus encore. Mais disons que la critique de Budu m'a un petit peu refroidi sur la troisième partie de cette saga. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère beaucoup que Budu vous a donné au moins le goût d'écouter une des deux choses ou vous a complètement également refroidi sur un des deux ou sur les deux. Tant pis, c'est pour ça qu'on est là de toute façon. C'est juste pour vous donner nos impressions et vous guider un petit peu sur la multiple énorme bibliothèque de séries et films qu'on a avec les différentes plateformes numériques. Des fois, on s'y perd, donc on est là pour vous aider un petit peu à vous y retrouver. Prochaine Capsule Express la semaine prochaine, 21 juin. Probablement moi qui va la faire, sur quoi je ne sais pas encore. Ce sera une surprise, vous allez le découvrir en même temps que tout le monde. Prochaine Capsule Express le 21 juin et 1er juillet. Épisode mensuel. Ce mois-ci, on va vous parler de films en général. Des films, des feel-good movies, mais pas nécessairement des feel-good. Ça peut être des films tristes, ça peut être de tout genre, des actions, des comédies, des horreurs, des drames, peu importe. Des films qu'on aime beaucoup écouter et qu'on a également beaucoup de plaisir à réécouter et à réécouter et à réécouter. Peut-être des films qui ont passé un peu en dessous du radar, sait-on jamais. Ça sera le sujet de l'épisode mensuel du 1er juillet, donc j'espère que vous allez être avec nous pour cet épisode et que vous allez avoir du plaisir à nous écouter. Là-dessus, je n'en dis pas plus, on se revoit la semaine prochaine pour une autre Capsule Express des critiques de Yugi. Merci d'avoir été avec tout le monde, à la prochaine!